Les midis, c'est reparti. Bienvenue. Si vous nous rejoignez à partir de 13h, je recevrai Constance Debray. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour à tous. Alors Marie, vous n'avez pas pu passer à côté. Shen Yun, c'est le spectacle chinois qui promet, je cite, la renaissance de 5000 ans de civilisation avec des centaines d'artistes sur scène. Eh bien, ce spectacle, il est de retour à Paris après avoir fait le tour du monde. Mais autant être un spectateur averti, ce n'est pas simplement un super show qui est proposé, c'est aussi, voire surtout, un instrument politique. Les dessous politico-religieux de l'opéra Shen Yun, c'est le dossier du Point Culture du jour. Harold Thibault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde, correspondant en Chine, et vous avez enquêté sur Shen Yun, ce grand spectacle de danse qui tourne partout dans le monde et qui revient ces jours-ci à Paris. Alors Shen Yun se présente comme une renaissance, je mets des guillemets entre ce mot, de la culture chinoise pré-communiste. On est ici clairement devant un geste politique, mais à qui s'adresse-t-il en priorité ?
Alors je pense qu'il s'adresse d'abord à des non-initiés, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont voir comme spectacle, qui ne savent pas ce qu'il y a derrière la troupe, c'est-à-dire un mouvement spirituel qui a des visées extrêmement politiques, qui s'appelle le Falun Gong, qui est interdit en Chine, mais qui est très controversé à l'extérieur. Et donc, le public va être séduit par la qualité de la danse, sans forcément savoir quel message politique il va recevoir. En général, les gens savent que le Falun Gong, qui est derrière donc la troupe Shen Yun, est très réprimé en Chine, sans forcément savoir quels sont les fondements et les idées du Falun Gong.
Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Donc, le Falun Gong, c'est un groupe religieux. Qui sont-ils et quelles sont leurs revendications ?
Alors, le Falun Gong, c'est un groupe spirituel, religieux, qui est né au début des années 90 en Chine, qui a été fondé par un gourou qui s'appelle Li Rongzhe. C'est né à une période où il y avait une sorte de début de renaissance spirituelle, sachant que les pratiques religieuses ont été interdites sous Mao en Chine. Et donc, il y avait un désir dans la population, avec la découverte de certaines libertés dans la société, de retrouver de la spiritualité, donc un regain d'intérêt pour le Qigong, pour ces pratiques de à la fois gymnastique et spirituelle. Et le Falun Gong, à partir du début des années 90, va mobiliser de plus en plus de monde, au point que ça va inquiéter les autorités chinoises, qui à partir de 96 vont interdire la publication de ses livres, et puis commencer à réprimer certains de ses pratiquants. Et en 1999, on a une énorme manifestation du coup autour des palais du gouvernement chinois, où il y a des milliers de pratiquants du Falun Gong qui se tiennent la main, qui font une chaîne humaine. Et à partir de ça, donc c'est un défi colossal au Parti communiste chinois, c'est le 25 avril 1999. À partir de ça, il va y avoir une répression extrêmement brutale contre le Falun Gong.
Donc ça, c'est un peu ce que l'on sait, ce que le public éventuellement sait, c'est-à-dire qu'on est en face d'un mouvement spirituel qui est réprimé en Chine. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que ce mouvement prône quand même des valeurs régressistes, on peut dire ça.
On peut tout à fait dire ça. Donc, après la répression en Chine, le mouvement s'est exilé aux États-Unis. Son fondateur vit encore aujourd'hui dans l'État de New York. Le mouvement a continué à se développer à Taïwan, à Hong Kong, dans d'autres régions d'Asie, également sous le manteau en Chine, mais en prenant des valeurs extrêmement conservatrices. Alors, ils ont le sentiment que la Chine, avant le Parti communiste, c'était fantastique. Que les Chinois vivaient en harmonie avec la nature, que les dynasties étaient fantastiques, égalitaires, en oubliant complètement la pauvreté et la misère qui régnaient dans le pays. Et puis surtout, une fois qu'ils se sont exilés, ils ont commencé à prôner des valeurs extrêmement conservatrices, rétrogrades. Donc par exemple, en 1999, Li Rongzhe, dans une interview à Time Magazine, condamnait l'homosexualité et puis disait que les aliens avaient commencé à infiltrer l'esprit humain. Donc on voit qu'on est sur des délires assez complotistes et puis très rétrogrades. Ils ont développé à l'étranger plusieurs médias, un journal qui s'appelle Epoch Times, une chaîne de télévision aux États-Unis qui s'appelle New Tang Dynasty, parce qu'ils sont dans un rêve d'une dynastie Tang qui était censée être le pic de la qualité des dynasties chinoises. Et dans le spectacle, et ça les spectateurs ne savent pas avant d'aller le voir, donc le spectacle sert à financer le mouvement du Falun Gong. Et dans le spectacle, on dénonce certains aspects de la modernité, comme le téléphone portable, comme les vaccins contre le Covid. Voilà, sous couvert de dénonciation de la répression et de la brutalité.
On le voit très concrètement sur scène, ça ?
On voit la dénonciation du téléphone portable, par exemple, qui est présenté que... Moi, j'ai vu le spectacle il y a 2 ans, donc ça varie d'une année sur l'autre, les mises en scène peuvent varier. Mais enfin, les thèmes sont quand même récurrents. Il y a une dénonciation de la modernité qui mènerait à l'enfer, à un isolement total de l'individu. Alors, il y a certains aspects qui sont réels. Mais enfin, ils ont une vision qui est complètement chaotique, en fait, apocalyptique, on pourrait dire un petit peu millénariste. Donc oui, de dénonciation de la technologie qui serait par nature néfaste. Ça, on le voit.
Et ce qui est très troublant concernant ce spectacle, c'est qu'on a tous vu, je crois, des affiches énormes dans le métro ou les petites vidéos YouTube qui vraiment tournent depuis des années. Quand ce n'est pas les flyers qu'on distribue dans les rues, c'est un spectacle avec un énorme renfort marketing. Mais ce qui est troublant, c'est qu'on a l'impression, c'est un peu ce que vous disiez au début, que les gens ne savent pas ce qu'ils vont voir, mais ni en y allant, ni en sortant.
Oui, ce qui est vendu en fait aux spectateurs, c'est 5000 ans d'histoire de la Chine qui serait grandiose sur toute la ligne. Sauf la Chine communiste post-1949. C'est ça le gros du message. Les gens, moi quand j'y suis allé en 2023, les gens à côté desquels j'étais assis, certains ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. Ils avaient juste vu les affiches dans le métro et se disaient que ça avait l'air sympa de la danse chinoise. D'autres savaient quand même que c'est un mouvement qui est réprimé. Donc évidemment, la répression, c'est de la souffrance, donc il y a une forme d'empathie. Et on cautionne pas du tout ça, évidemment, mais ne savent pas quel est le message latent que porte le Falun Gong. Je pense que c'est une des clés du succès du spectacle, d'ailleurs, c'est que les gens y vont naïvement pour voir de belles scènes de danse, mais ne savent pas à quoi s'attendre. Et je pense que c'est un des problèmes du spectacle. Et c'est problématique.
Mais tellement naïvement que le spectacle marche aussi sur... une accumulation de micro-trottoirs à la sortie, de gens qui disent à quel point ce spectacle était merveilleux. Et puis, ils ont aussi des gens connus, des stars qui vont témoigner en disant « le spectacle est magnifique ».
Oui, également parce qu'il y a une empathie qui se crée autour du fait que les praticiens du Falun Gong sont réprimés en Chine. Donc, quand on dit ça à des stars aux États-Unis, qui n'ont pas forcément elles-mêmes enquêté sur ce qu'est le Falun Gong, mais souvent c'est sans connaître le fond du fonctionnement de l'institution, qui est assez sectaire. Donc, par exemple, il y a très peu d'informations qui filtrent sur le fonctionnement de la communauté Falun Gong, donc dont le siège est dans l'État de New York. Et puis, sa vision du monde, en fait, très, très sombre, anti-progrès, est assez méconnue, y compris des stars qu'on voit dans le micro-trottoir qui est utilisé pour faire la promotion vidéo, et puis y compris dans le public général.
Bien, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce spectacle et sur ce groupe, Harold Thibault. Merci.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, on a appris hier la mort de Valentino à l'âge de 93 ans.
Connu pour ses créations à la fois élégantes et glamour, le couturier à la renommée mondiale est né en Lombardie en 1932. Valentino Garavini avait ouvert sa première boutique à Rome en 1960 avant de connaître un succès international grâce à son travail pour Jackie Kennedy, dont il avait dessiné la robe pour son second mariage. Premier styliste italien à ouvrir une boutique à New York en 1970, il deviendra rapidement l'ami des stars. Il habillera ainsi Elizabeth Taylor, Sophia Loren ou encore Julia Roberts. Après le décès de son alter ego Giorgio Armani en septembre dernier, Valentino était considéré comme le dernier grand couturier de sa génération.
Et pour finir, Marie, Éric Zemmour vient d'être condamné pour contrefaçon de droits d'auteur.
Oui, car il a utilisé des extraits du film Le Collège d'à côté, documentaire de 2022 réalisé par Marc Adergal qui retrace une expérimentation de mixité scolaire dans le 18e arrondissement de Paris. Éric Zemmour avait diffusé des passages du documentaire sur ses réseaux pour dénoncer ce qu'il considérait être du racisme anti-blanc. Le tribunal judiciaire de Paris vient donc de le juger coupable de contrefaçon de droits d'auteur puisqu'il n'avait pas reçu d'autorisation pour utiliser des extraits de cette œuvre. C'est la deuxième fois qu'Éric Zemmour est condamné pour ce motif. En 2022, il avait dû verser 70 000 euros de dédommagement aux ayants droit de plusieurs réalisateurs français pour avoir utilisé des passages de leurs œuvres dans sa vidéo de candidature à l'élection présidentielle.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. À demain. En attendant, il est 13h. Vous écoutez France Culture.